du jazz.
D'hier et d'aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Ce soir, nous reprenons notre cycle sur le dictionnaire des titres que nous avions surnommé en des temps très anciens, à juste titre et pour cause. Et nous en étions à la lettre J, déjà bien entamée. Voici donc un morceau qui s'appelle Jack the Bear.
Cet homme-là, dont le surnom, est-ce que c'est lui-même qui se l'est donné ou les copains? The Bear, ça veut dire l'ours. Cet homme-là est pianiste de House Rent Parties. Quelqu'un qui a du mal à payer son loyer invite tous les copains, les copines à danser dans son appartement. Et chacun des copains et des copines donne de l'argent pour ça. Et c'est quelque chose qui permet à beaucoup, finalement, de payer son appartement. On devrait bien faire ça, nous aussi.
Oui, bah, c'est-à-dire que nous, les parties, on en a beaucoup fait, mais elles s'appelaient Surprise. Et en fait, elles étaient gratuites, donc elles ne rapportaient rien à personne. Tandis que là, avec ce système-là, tu payes le buffet, l'orchestre et le loyer. C'est quand même pas mal. Et il y avait quelquefois beaucoup de monde.
Quel plaisir de se retrouver tous ensemble, entassés et à danser. Génial, non?
Oui, on a bien connu ça aussi. Ce Jack the Bear, donc, qui s'appelait en réalité John Wilson, était donc le type du quartier à qui on demandait de venir tenir le piano. Par ça, il paraît qu'il n'était pas terriblement fréquentable.
Oui, c'était pas un gracieux, disons.
Non, un peu toxico, un peu joueur tricheur et originaire de l'Ohio.
Bon.
Mais alors, vous auriez raconté ça à Lou Armstrong et vous auriez dit pas du tout. Jack the Bear, c'était le surnom d'une dame de la Nouvelle-Orléans qui était extrêmement réputée pour ses hautes qualités physiques intrinsèques.
Ah, comme quoi,
hein? Je suis pas sûr qu'il aurait dit comme ça. Le disque qu'on va entendre, qui est de l'orchestre de Duke Ellington, marque l'entrée dans l'orchestre d'un jeune prodige qui jouait de la contrebasse.
Et oui, c'est ce Jimmy Blanton qui va révolutionner la pratique de l'instrument en jazz.
Il a une technique, une virtuosité et une oreille absolument extraordinaires. C'est donc un musicien qui exploite la contrebasse plus que ses prédécesseurs, qui va faire école parce que les lignes de basse, après lui, vont changer. De même que la pulsation qui est d'une très grande souplesse. Et ce jeune homme, qui n'a pas 20 ans, à peine Duke Ellington l'a entendu, qu'il l'engage science tenante, c'est la première fois qu'on voit arriver dans le jazz quelqu'un dont les solos sont passionnants. D'ailleurs, avant lui, il y a eu très peu de solos de contrebasse.
Et oui, c'est un créatif, ce type-là.
Et Duke Ellington a très bien fait de se dépêcher de l'engager et d'enregistrer avec lui, chose unique, des duos piano-contrebasse. Ça ne s'est jamais refait après pour Ellington. Parce que Jimmy Blanton, 2 ans après, va se trouver mal pendant une tournée, va être hospitalisé et on va s'apercevoir qu'il a la tuberculose, mais en phase très très avancée. Il est mort très peu de temps après.
Triste, hein?
Triste. Voilà un prodige qui, comme Charlie Christian, mais pour d'autres raisons, a à peine dépassé ses 20 ans. Dans ce disque, Jack the Bear, il est très en valeur et donc...
Ouvrez bien l'oreille sur la contrebasse.
Oh, morceau suivant s'appelle Jamaica Shout.
Ça ne veut pas dire on va donner un coup de fusil. C'est un cri, le shout.
Ah bon, moi j'aimais bien coup de feu en Jamaïque, c'était pas mal. Bon, ou alors hurlement en Jamaïque, eh ben non, parce que shout, c'est un autre sens. Car le shout qui nous occupe ici, il est à la house rent party, ce que la boom est à la surprise party.
Allez, festoyons.
Oui, mais alors Jamaïca?
Eh bien, Jamaïca, c'est un quartier du Queens.
Le Queens, c'est un des 5 bourgs qui forment New York City. Et le Queens, il y a un autre quartier célèbre qui s'appelle Corona, où Louis Armstrong habitait.
Même que le jour où on est allé visiter la maison d'Armstrong,
qui est maintenant un musée,
on a entendu dire qu'à quelques rues de là, il y avait eu une sacrée fusillade.
Comment ça, à quelques rues de là? C'était dans la rue voisine. Vous avez oublié le journal, madame. Et il y a eu 3 morts, quand même.
Oui, mais nous, on était là.
Et nous, c'était 2 jours. 2 jours, c'est plutôt calme, quand même. Et puis, dans le Queens, il y a encore un autre quartier très célèbre. Si vous jouez au tennis, ça s'appelle Flushing Meadows.
Ah oui, alors là, il y a des coups de balle, mais c'est tout.
Il s'agit d'un disque de Coleman Hawkins, le père, l'inventeur, le pape du saxophone ténor, qu'il a enregistré avec des musiciens de l'orchestre Thatcher Anderson, auquel il appartenait à cette époque-là. Et c'est un disque très intéressant, d'abord parce que Hawkins y joue d'une manière absolument fantastique, et ensuite parce qu'il y a une rythmique, la rythmique de cet orchestre, est tout à fait exceptionnelle, chère madame, avec un grand méconnu à la batterie qui s'appelait Walter Johnson. Après Jack, Jamaïca, ben, logiquement, on arrive à Jam. Et Jam, c'est la Jam.
La Jam, c'est une sorte de mélange. Ça fait allusion à la confiture, vous savez, où on met plein de fruits. Et ben là, Il y a plein de musiciens qui arrivent, qui se retrouvent et qui jouent entre eux uniquement pour leur plaisir. Là, il ne s'agit pas de sous-sous, il s'agit simplement qu'on joue pour se faire plaisir.
Cette comparaison avec la confiture veut aussi dire que tout le monde se mélange en fait au point de vue musique. Et c'est aussi un lieu de compétition, car tous ces gens-là que nous entendons étaient à l'époque de ces enregistrements très jeunes et très compétiteurs. Férocement, même, quelquefois.
Ah oui, c'est à celui qui jouerait le mieux en regardant le voisin d'un œil amical, mais parfois un peu pointu.
Même ici, nous avons assisté à des jam sessions entre jeunes musiciens français dans le temps. Et je me rappelle une fois où deux trompettes ont fini par s'insulter et en venir aux mains exactement comme deux talonneurs sur un terrain de rugby.
À ce point-là, bon.
À ce point-là, exactement.
Je croyais que la musique adoucissait les mœurs, j'ai dû me tromper.
Nous, en France, on n'appelle pas ce genre de circonstances jam parce qu'on a un mot à nous qui s'appelle le bœuf.
Alors faire le bœuf, c'est exactement une jam session, c'est-à-dire on se retrouve pour le plaisir, jouer tous ensemble, on ne sait pas très bien qui va venir, etc.
Dans beaucoup de festivals, il y a le bœuf d'après-concert et puis il y va qui veut.
Voilà, ça vient d'une circonstance tout à fait particulière, très française.
Il paraît que c'est une trouvaille de Jean Cocteau. Figurez-vous que Jean Cocteau, notre illustre écrivain, dramaturge, dessinateur également, et académicien.
N'est-ce pas ?
Eh bien, Jean Cocteau fréquentait un endroit qui s'appelait le Bœuf sur le Toit. Mais c'était il y a très longtemps, c'était au tout début des années 20. Et au Bœuf sur le Toit, il y avait du jazz, le premier jazz en France. Et Cocteau tenait la batterie, figurez-vous. Naturellement, quand on disait à quelqu'un « on se retrouve au Bœuf sur le Toit », on ne disait pas au Bœuf sur le Toit, on disait « bon, ce soir, 10 euros au Bœuf ». C'est parti comme ça.
Et c'est devenu une expression que tous les musiciens français utilisent.
En l'occurrence, nous allons faire appel à Lester Young, qui a réuni quelques musiciens qu'il aimait bien. C'est une orchestre de circonstance, parce que l'orchestre de Bœuf, ça peut désigner soit un orchestre régulier, mais qui ne fait jamais de choses structurées, c'est simplement des gens qui prennent des solos les uns après les autres, soit des orchestres réunis dans le studio pour enregistrer ensemble, alors que d'habitude, ils sont chacun dans sa propre formation. Et comme la séance d'enregistrement s'est faite sous l'égide de Lester Young, eh bien le disque s'appelle, naturellement,
Jamming with Lester.
Et maintenant, un vieux morceau, un vieil enregistrement. Si ça vous semble pas bien enregistré, ne nous en veuillez pas. C'est l'époque d'enregistrement était plutôt artisanale, et en l'occurrence même empirique. Mais le morceau est magnifique, hein. La chanteuse est fantastique. De son vrai nom, Gertrude Pridgett.
Oh, ma reine, c'est mieux quand même.
Oui, heureusement, elle avait épousé pas Rainey, alors c'est évidemment... c'est... Et ce morceau s'appelle Jelly Bean Blues, et vous allez en profiter doublement parce qu'elle est accompagnée par le jeune Louis Armstrong. Jelly Bean Blues, qu'est-ce que c'est ?
Le Jelly Bean, c'est un gâteau très coloré, en forme de haricot, et enrobé de sucre et de gelée.
Mais naturellement, comme toujours dans les titres de jazz ou de blues, le sens est double. Et ça désigne aussi, dites-moi un petit peu quoi, madame ?
Ça désigne un type qui est toujours tiré à quatre épingles, à la dernière mode, et qui est très performant. Mais dites donc, il y en a des qualités là-dedans dans le jelly bean.
Oui, et il est d'ailleurs tellement performant que cette pauvre Marinette qui voudrait bien le retrouver pleure sa disparition.
Eh ben oui, ça se comprend.
Oui, mais attention, elle pleure et elle reproche.
Ah, là, on ne va pas rentrer dans ces considérations, hein ?
Non, non, après tout, c'est leur problème. Voici une autre recette, on est toujours dans la pâtisserie, mais là c'est encore plus direct.
C'est le jelly roll.
Ah, le jelly roll, mais ça existe en France, tu sais, le jelly roll ? Ça s'appelle un roulé à la confiture.
Tout simplement.
Tu prends de la génoise bien à plat, tu mets une couche de confiture, une couche de génoise, une couche de confiture, une couche de génoise, après tu roules le toutim. Voilà, ça fait un gâteau allongé. qui s'appelle un roulé à la confiture. Nous n'allons pas trop insister sur l'évidence de la ressemblance de cet objet délectable avec autre chose.
Comme toujours, les musiciens font des allusions quand même un petit peu sexuelles.
Ils sont même pour la plupart carrément obsédés, il faut être honnête. Assister à un repas entre musiciens pour une jeune fille, franchement, c'est pas forcément recommandable.
Jeune fille innocente.
Innocente mais pas sourde. Bon, là, vous avez tous compris ce que c'est qu'un Jelly Roll. Alors maintenant, eh bien, nous allons... Jelly Roll a également été le surnom de quelqu'un qui devait être particulièrement connu.
Jelly Roll Morton, de son vrai nom. Alors là, c'est vraiment un nom français, hein. Ferdinand Lamotte.
Car Morton était le nom de sa mère. En réalité, donc, il s'appelait Lamotte. Alors, c'est très intéressant, ce nom, parce que Lamotte, un village qui est près de Brioude, et il y a un autre village pas loin de Brioude qui s'appelle Chavagnac, mais également Chavagnac-Lafayette. On peut donc imaginer, mais ça, les chercheurs, bizarrement, se sont jamais penchés sur cette question de cette façon. Mais moi, je pense qu'on peut imaginer un compagnon de Lafayette, originaire de Lamotte, puisque c'est juste à côté, hein, qui s'est retrouvé en Amérique, et puis qui a fait souche. Pourquoi pas? Alors donc, Ferdinand Lamotte, qu'est-ce qu'il nous joue? Eh bien, il nous joue tout simplement...
Jelly Roll Blues.
Changer de plaisir et nous allons maintenant nous consacrer à la bibine. Voici le Jersey Lightning. Dis donc, tu sais qu'en Amérique, il y a des pommes.
Eh oui.
Et donc, il y a du...
Calvados.
Voilà, le Calvados américain.
Le morceau que vous allez entendre s'appelle Jersey Lightning et ça veut dire, en gros, Calvados américain.
Oui, donnez-moi un Jersey Lightning, ça veut dire je veux un calva.
Ça a aussi un sens de whisky de bas étage. Hein.
Pourquoi ? Parce que la prohibition étant arrivée, on a commencé à fabriquer du whisky dans les baignoires. Selon la qualité du produit, selon les réactions qu'on pouvait avoir, parce qu'il y avait des alcools de baignoire qui pouvaient tuer. Il y en a un qui s'appelait le Moonshine. Je ne te dis pas dans quel état il devait mettre les gens. Alors le Jersey Lightning, dans cette rubrique-là, ça désigne vraiment simplement, oui, le whisky de baignoire, un peu dégueu sans plus. Et ce morceau, qui donc date de la Prohibition, a été enregistré par l'orchestre Louis Russell.
Ah oui, c'est un orchestre où il y a vraiment des musiciens originaires de la Nouvelle-Orléans. C'est très, très Nouvelle-Orléans. Hein.
Il y en a toute une bande qui s'est retrouvée donc, chez Louis Russell. Louis Russell, je te signale, c'est le père de Catherine Russell, qui est une très grande chanteuse actuelle.
Ah oui.
Alors, si vous voyez Catherine Russell sur un disque, sur un CD, dans n'importe quel endroit, vous sautez dessus. Il y a aussi dans cet orchestre Louis Russell, Albert Nicolas, le clarinettiste qu'on a bien connu. Et même un soir où il était venu dîner à la maison, il nous a raconté une séance d'enregistrement de Jelly Roll Morton.
Je peux vous dire qu'on a eu un aperçu sur Jelly Roll Morton, chef d'orchestre qui n'était pas piqué des verres. Hein. C'était un pas commode. Il ne s'agissait pas de dire le contraire de ce qu'il venait de dire, ou même d'une suggestion. Ça devait filer droit. Hein.
Tu sais qu'un jour où un trombone n'arrivait pas à exécuter la partie qu'il lui avait demandé d'exécuter, à la 5e prise ou à la 6e prise, il a sorti un énorme colt et il l'a posé sur le piano en regardant le type. Eh bien, la prise suivante, qui est la seule que nous connaissons naturellement, a été, trombonistiquement parlant, impeccable.
Quelle horreur! Bon!
Cet orchestre de Louis Russell a également été, puisque la Nouvelle-Orléans, évidemment comme Armstrong, ça peut créer des liens, puis c'est un bon orchestre en plus, a également été celui par lequel Louis Armstrong se faisait accompagner pendant une période assez longue dans les années 30.
Voici donc Jersey Lightning.
L'éclair de Jersey, autrement dit, un bon calvin. Thank you. voici maintenant le terrifiant Jess James.
Jess James Blues. Ce Jess James, c'est pas la crème des honnêtes gens. Hein.
Ah non.
C'est un hors-la-loi très célèbre qui s'était spécialisé dans les attaques de trains et de banques. Alors dans les trains, il dépouillait absolument les voyageurs. Et dans les banques, il arrivait avec toute sa troupe de voyous. Et puis, pam, 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 ça fonctionnait quand même pas mal. Il avait une sacrée bande et puis il s'est fait beaucoup d'argent.
Ah oui, puis il était absolument terrifiant. Il faut quand même situer un peu les dates du vrai Jess James. Hein. Il était né en 1847 et il est mort en 1882. Donc c'est vraiment le Far West légendaire tel qu'il a vraiment... C'est un personnage de ce Far West. Mais finalement, sa tête a été mise à prix pour un montant exorbitant. Tu sais, les affiches, Wanted. Là, il y avait beaucoup de zéros dans les dollars.
Les gens de sa bande, il y en avait qui avaient quand même un peu peur parce que c'était un pas commode. Mais il y en avait deux qui avaient... Toutes les audaces, en plus, c'était deux frères.
Les frères Ford.
Eh bien, les frères Ford, ils l'ont tué raide, sans état d'âme. Hein.
Ah non, et puis après, ben, ils ont encaissé la prime. Et puis peut-être, ils se sont retirés dans un petit ranch, comme ça, tranquille, dans un coin, à élever du bétail et à penser au bon vieux temps. Et puis, devenus très vieux sur leur rocking chair, à raconter le bon vieux temps aux jeunes générations. Vous pouvez imaginer ça comme ça.
Et puis finalement, cet homme-là, qui était quand même assez horrible, eh bien, il est devenu une légende. En Amérique, on en a fait des feuilletons, on en a même fait des bandes dessinées, dans Lucky Luke.
Ah bah tout à fait.
On le voit.
Et même on en a fait un film où son rôle est joué par Tyrone Power.
S'il vous plaît.
S'il vous plaît. C'est comme ça, la légende, Bonnie and Clyde, enfin tout un tas de gens que tu n'aurais pas aimé rencontrer au coin d'un bois. Bah finalement, ça devient des sortes de bons génies à mi-chemin entre Arsène Lupin et le baron de Crack. C'est assez étonnant tout ça. Mais c'est comme ça. Et donc, c'est Washboard Sam, le chanteur de blues et joueur de washboard, qui raconte ce Jess James. Ça s'appelle naturellement Jess James Blues. Et à la guitare, il y a le grand...
Big Bill Bronzy.
Good as I have been to you. I wonder if you're gonna mistreat me, woman. Good as I have been to you. It seems like you don't want me, no matter what I do. Did you get that letter? I stood in your backyard. Did you get that letter that I stood in your backyard? Now I would come to see you, but your good friend got me barred. Now, woman, you must want me to be like Jesse James. Now, woman, you must want me to be like Jesse James. I got to kill some man and rob some passenger train. Snapping my pistol in your no-good face. I feel just like snapping my pistol in your no-good face. Thought you told me late last night you stayed in another place. I'm gonna shoot you, woman, as long as my pistol will fire. I'm gonna shoot you, woman, as long as my pistol will fire. cause this is Jesse James, and you should not tell him a lie.
Dans le titre suivant, il y a beaucoup de choses fort intéressantes et significatives sur la condition des Noirs aux États-Unis et en particulier à l'époque où ça a été enregistré, c'est-à-dire à la fin des années 30.
Et pourtant, le titre est bien court. Jimtown Blues. Jimtown, ça désigne presque tous les quartiers noirs qui ont été installés très souvent de l'autre côté des voies de chemin de fer. Il y avait d'un côté la ville qui s'était construite, de ville blanche, etc. Et de l'autre côté des voies, souvent dans des coins un peu déshérités, il y avait le quartier des Noirs.
D'ailleurs, il y a un blues célèbre de Duke Ellington qui s'appelle Across the Track Blues, ça veut dire le blues de l'autre côté de la voie. Donc, tu arrivais dans n'importe quelle ville des États-Unis, on savait où était la Jimtown, c'était là-bas. Quoi. Et pourquoi ce Jimtown ? Beaucoup d'auteurs pensent qu'il s'agit d'une déformation voulue de Jim Crow. Et il faut savoir que Jim Crow, c'est tout ce qui concerne la ségrégation, le racisme et toutes ces choses déplorables et américaines. C'est comme ça qu'ont été appelées les lois des États du Sud lorsque l'esclavage a été aboli et que les droits civiques des Noirs ont été contournés avec une série de lois.
Qui finalement faisaient que leur liberté nouvelle était de plus en plus restreinte par plein d'autres petites lois du comté ou de la région. Et on les appelait les lois Jim Crow.
Et c'était en fait tout ce qui organisait une ségrégation qui a été très longtemps en vigueur, comme en Afrique du Sud, l'apartheid. Et ça nous est raconté en musique par l'orchestre de Fletcher Henderson. Voici maintenant The Jitney Man. Le Jitney Man, eh bien, c'est le chauffeur d'un petit autobus qui fait la navette en ville. Vous imaginez le Floribus.
Un peu comme nous, voilà. Oui. Sauf que là, il n'y avait pas d'abonnement ni de choses comme ça n'existait pas. On donnait 10 cents où qu'on aille. À l'autre bout de la ville, ou juste un tout petit trajet, c'était 10 cents.
Comme dans le métro à Paris. Hein. Avec un ticket, tu peux rester toute la journée à circuler dans Paris. On n'a jamais très bien su si le chauffeur a été appelé jitney parce qu'on appelait la pièce de 10 cents un jitney, ou bien si on a appelé la pièce de 10 cents un jitney à cause du surnom du chauffeur. Ça, c'est le problème de la poule et de l'œuf, on n'en sortira jamais. Toujours est-il qu'un beau matin, il y a eu la crise de 29.
Les taxis avaient plus de boulot.
Du tout.
Les gens prenaient le bus parce que c'était un jitney et qu'ils savaient où ils allaient.
Pour pas cher.
Et du coup, les taxis, ils se sont mis à faire ce qu'on a appelé en Amérique du dumping. C'est-à-dire de l'encore moins cher.
Eux, ils ont commencé dans certaines grandes artères à s'arrêter à tous les carrefours, comme une navette, et à faire monter les gens. Seulement le problème,
c'est que les taxis ne prenaient plus que 5 cents.
Alors ça a fait concurrence aux autobus de Chicago, parce que toute cette histoire se passe à Chicago. Et là, ça s'est très mal passé, ça a été déclaré illégal, enfin il y a des gens qui ont eu de gros ennuis. Tu vois ça d'ici, la crise financière, le chômage pour tout le monde, plus de fric nulle part, et en plus des ennuis avec la société des autobus. Ça fait quand même beaucoup. L'orchestre de jazz le plus connu et le plus huppé de Chicago, c'était celui de Earl Hines, qui a bien profité de cette époque et de cette circonstance pour distiller un morceau dont vous allez profiter et qui s'appelle naturellement
The Jitney Man.
Jitney man, a regular jockey I am. Any place you wanna go, I can take you fast or slow. Bully da 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 da, I'm the jitney man. Oh, I can drive, I can. Behind this wheel, I'm the man. Take it easy in your seat, everything will be all right. Holla da, holla da, I'm the jitney man. You don't even have to call. Look like you're going somewhere, and I'll be there with the door wide open, waiting to take your fare. I'm the jitney man. Take you and bring you, my friend. I'm always up and down the street, 'cause jitney drivers got to eat. Bo-dee-da-da-da, I'm the jitney man.
Le morceau suivant, il a un drôle de nom. Il s'appelle Jitterbug Vals. Essayez d'imaginer ce que c'est qu'un jitterbug.
Jitterbug pris au pied de la lettre, ça veut dire punaise qui a la bougeotte.
C'est bon, chouette ça.
Au départ, ça désignait les gens qui étaient atteints de délirium tremens. Alors avec ce qu'ils avalaient comme produit sortant des baignoires locales, c'est pas toujours étonnant que c'est mal tourné et naturellement, c'est passé dans le langage argotique comme ça.
Après, ça a eu une acception moins dramatique quand même. Ça voulait dire ces petits jeunes gens qui était complètement fan et qui s'agitait dans tous les sens, les bras en l'air, pour montrer comme ils étaient contents, quoi.
Et totalement hanté par le rythme.
Naturellement.
Et puis plus tard, naturellement, c'est aussi devenu le nom d'une danse. D'après le livre d'un ami extrêmement savant, qui s'appelle Jean-Paul Levet, c'est le nom qu'on a donné au Lindy Hop lorsqu'il est dansé par des Blancs. Et là, il s'appelle rock acrobatique.
Mais c'est chouette quand même. Hein,
ah bah, je ne dis pas le contraire, mais là, nous sommes dans les morceaux et dans l'argot des Noirs. Et un beau soir, chez lui, saisi d'insomnie peut-être, Fats Waller s'est installé sur un coin de table et a composé cette valse. Et il l'a appelée...
Jitterbug Waltz, tout simplement.
Et c'est un très joli morceau. D'ailleurs, Fats Waller a composé d'innombrables très jolis morceaux. Toujours joué, alors qu'il est mort l'année de notre naissance.
Ce qui ne date pas d'hier.
Tut tut. Voici maintenant devant une situation qui a d'ailleurs été assez répandue en France pendant la Première Guerre mondiale et qui se retrouve donc aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale.
Un Judy, c'est un gars qui a trouvé une astuce ou au contraire qui a accepté un job non militaire pour rester hors des champs de bataille.
L'armée américaine a trié les gens selon des critères qui étaient l'objet d'un programme officiel, hein, qui s'appelait le Job Deferment, et a écarté donc ainsi les ingénieurs, les spécialistes, tout un tas de gens.
Et c'était pas très bien vu par ceux qui allaient au front. D'ailleurs, en France, on avait un terme pas très aimable pour ce genre de gens, on les appelait les planqués.
Ou les embusqués. Le programme officiel, donc, c'était un acronyme, et il en est sorti ce mot de Jody. Et naturellement, les Jody, eh bien, ils étaient aussi réputés pour profiter des dames de ceux qui étaient partis dans le Pacifique, en Europe ou ailleurs.
Et comme ces gens, bien sûr, ils étaient là, ces hommes, ils profitaient un peu de ce que les femmes étaient seulettes.
Bref, si vous avez lu ou vu le film Le Diable au corps, vous aurez compris que ces gens-là n'étaient pas très populaires. Donc, ce mot de Jody a fini par désigner, non pas un type resté au pays parce qu'il était utile, mais l'amant qui a présumé de ses forces, la victime de la fameuse panne. Voilà. C'est Lou Armstrong qui joue et qui chante ce morceau.
Time man and milk ain't worth the skimming. He's on the nest and out the grass. The GI's lonely women. You better watch out for that Jody man. Jody man's the talking man, a goon among the groovers. He haunts the house of every mouse whose man is on maneuvers. You better watch out for that Jody man. Got a mind full of sin. He's got a pocket full of tin. And when the PFC walks out, that's when the Jody man moves in. Hey, soldier, if you got a chick who's solid in a sweater, it's time, I think, to spread the aim and write the kid a letter. Tell her to watch out for that Jody man.
Allons conclure par un coup de poing bien asséné par un boxeur très célèbre.
Ah oui, Joe Louis. Alors, Joe Louis, c'était l'idole absolue de tout Harlem. Hein.
Champion du monde poids lourd en 1937, à tel point que beaucoup de morceaux de musique ont été composés et enregistrés en son honneur. Seulement voilà.
Il y a eu un match contre un certain Max Schmeling.
Qui était allemand.
Naturellement, tous les matchs de boxe étaient sujets à des paris absolument incroyables. Hein. Il y avait des gens qui pariaient leur maison, leur voiture, leur truc. C'était complètement invraisemblable. Une vraie passion. Hein.
Contre ce Max Schmeling, tout le monde pensait, c'est Joe Louis qui gagne, c'est de tout cuit.
Et là, bien sûr, tous les Noirs, ceux qui ont en tous les cas misé, C'était bien sûr sur Joe Louis.
Eh bien, le malheur a voulu que Joe Louis perde ce combat contre Max Schmeling, contre toute attente d'ailleurs.
Oui, oui.
Ce qui a ruiné la moitié de Harlem, et en particulier un célèbre trompettiste qui s'appelait...
Tommy Ladinier.
Et c'est un autre trompettiste qui, par chance, sans doute, se trouvait à Paris à cette époque.
Et qui n'a pas pu miser.
Le Vénard. Il s'appelait Bill Coleman, qui, en l'honneur de Joe Louis, qui venait d'être champion du monde, a enregistré ce...
Joe Louis Stomp.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.